Chapitre 76, l'état de l'Église. Une réforme est absolument nécessaire au sein du peuple de Dieu dont l'état actuel est tel qu'on se demande si l'Église représente vraiment celui qui a donné sa vie pour elle. Les membres de cette Église sont-ils des disciples du Christ et des frères de ceux qui, dans le passé, n'ont pas hésité à faire le sacrifice de leur vie? Ils sont rares ceux qui ont atteint l'idéal auquel la Bible les appelle. Ayant délaissé Dieu, la source d'eau vive, ils se sont creusés des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. L'ange me dit, le manque d'amour et de foi, voilà le grand péché dont le peuple de Dieu s'est rendu coupable. Le manque de foi conduit à la négligence et à l'amour de soi et du monde. Ce qui se sépare de Dieu et succombe à la tentation se laisse aller à des péchés grossiers, entraînés qu'ils sont par leur cœur charnel. Cette perversité se rencontre chez un bon nombre de ceux qui se prétendent enfants de Dieu. Tandis qu'ils professent servir Dieu, ils corrompent à tous égards leur voix devant lui. Bien que la lumière de la vérité leur dévoile le danger et les avertisse clairement d'être sur leur garde, les invitant à réprimer leurs instincts et à renoncer à eux-mêmes, ils se laissent aller à leurs appétits et à leurs passions. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien que l'exemple de ceux dont la foi a fait naufrage se dresse devant eux comme un phare et les avertisse de ne pas se conduire de la même façon, beaucoup s'élancent dans une course folle sur la mauvaise route. Satan règne sur leur esprit et semble posséder tout pouvoir sur leur corps. Oh ! Combien de chrétiens se flattent d'être justes et bons, alors que la véritable lumière de Dieu révèle que pendant toute leur existence ils ont vécu pour eux-mêmes. Dieu a en horreur leur conduite, car ils vivent sans loi. Plongés dans d'épaisses ténèbres, ils se considèrent avec complaisance. Mais si la loi de Dieu se révélait à leur conscience, comme ce fut le cas pour Paul, ils verraient qu'ils sont vendus au péché et doivent avant tout mourir à la chair. Le moi doit être détruit. Combien sont effrayantes les fautes commises ! Elles sont le fait d'hommes qui bâtissent leur maison sur le sable, mais qui se flattent d'être fondés sur le rocher des siècles. Beaucoup de ceux qui font profession de piété s'avancent dans la vie avec témérité, aussi insensibles du danger qu'ils courent que s'il n'y avait pas de jugement à venir. Ils vont au-devant d'une terrible rétribution, en se laissant dominer par leurs instincts et leurs passions grossières. Au jour du jugement, le récit de leur vie sera bien sombre. J'élève ma voix pour faire retentir un message d'avertissement à tous ceux qui se réclament du nom du Christ, afin qu'ils se séparent de toute iniquité. Purifiez vos âmes en obéissant à la vérité. Purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit, recherchant la sainteté dans la crainte de Dieu. Vous à qui s'applique ce que je viens de dire, savez ce que cela signifie. Même si, aux yeux du Seigneur, vous avez marché sur un mauvais chemin, si vous avez participé à l'iniquité qui abonde dans le monde, si vous avez assombri vos âmes au contact du péché, Jésus vous invite à délaisser votre mauvaise voie, à vous emparer de sa force, à trouver en lui la paix, la puissance et la grâce qui vous rendront plus que vainqueurs. La corruption de ce siècle dégénéré a gagné beaucoup d'âmes qui professent servir Dieu. Mais maintenant même, il n'est pas trop tard pour que les torts soient redressés et que le sang du Sauveur crucifié et ressuscité soit offert en faveur de ceux qui se repentent et sentent la nécessité d'être pardonnés. Nous avons besoin de veiller et de prier comme jamais auparavant, si nous ne voulons pas tomber au pouvoir de la tentation, et laisser l'exemple d'une vie qui soit un lamentable naufrage. Nous ne devons pas, en tant que peuple, devenir négligents et regarder le péché avec indifférence. Il faut que le camp soit purifié. Tous ceux qui portent le nom de chrétiens doivent veiller et prier, et garder les avenues de leur âme, car Satan est à l'œuvre pour corrompre et détruire si on lui cède tant soit peu. Marchez dans la lumière. Mes frères, Dieu vous appelle, vous qui êtes ses disciples, à marcher dans la lumière. Vous avez besoin d'être sérieusement avertis. Le péché est parmi vous, et vous ne voyez pas qu'il est condamnable au plus haut point. Les sens de beaucoup d'entre vous sont émoussés par la complaisance aux passions, et la familiarité avec le péché. Nous avons besoin de vivre plus près du ciel. Nous pouvons croître dans la grâce et dans la connaissance de la vérité. Notre programme consiste à marcher dans la lumière et non à nous tenir toujours au même point sans rien faire. Il faut que nous avancions. Il y a beaucoup de faiblesses dans l'amour de soi, la vanité et l'orgueil. Mais l'humilité est une grande force. Notre vraie dignité ne consiste pas à nous complaire en nous-mêmes, mais à faire de Dieu le centre de toutes nos pensées, afin que nos cœurs débordent d'amour pour notre Rédempteur et pour nos semblables. La simplicité et l'humilité nous donneront le bonheur, alors que l'amour de soi produira le mécontentement, le murmure et la déception. C'est en apprenant à moins penser à nous et davantage au bonheur des autres, que nous obtiendrons la puissance divine. Dans notre éloignement de Dieu, dans notre orgueil et nos ténèbres, nous cherchons constamment à nous élever nous-mêmes et nous oublions que c'est dans l'humilité d'esprit que réside la force. La puissance de notre Sauveur ne consistait pas en un déploiement d'arguments tranchants qui se seraient fait un chemin jusqu'à l'âme. Mais sa bonté et ses manières modestes et simples lui gagnaient tous les cœurs. L'orgueil et l'exaltation du moi, comparés à la modestie et à l'humilité, sont vraiment des faiblesses. Nous sommes invités à apprendre de celui qui était doux et humble de cœur. Alors nous recevrons ce repos et cette paix si désirables.